Hors Case, une émission LGBT de l'association Telle Quelle en collaboration avec Radio Campus.
Bonsoir et bienvenue dans l'émission Hors Case, une émission LGBTQIA+, mais pas que. Avec nous ce soir, Valérie pour m'aider à présenter l'émission.
Bonsoir.
Et on a une invitée, c'est Bethel Mabil. Bonsoir.
Bonsoir.
Et on va parler de l'association Garance et des violences de genre, mais on va y revenir tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter par hasard ?
Oui, donc je m'appelle Bethel, je travaille donc chez Garance, où je suis chargée des formations, mais j'expliquerai peut-être un peu plus tard ce que ça recouvre, et aussi je suis la personne référente pour le projet LGBTQIA+. Voilà.
Est-ce que tu peux nous présenter l'association Garance, ses missions, ses valeurs, ses objectifs ?
Oui. Alors, Garance, donc, on travaille autour de la prévention primaire de la lutte contre les violences de genre, ou basée sur le genre. Donc, la prévention primaire, ça signifie qu'on essaye d'agir avant que la violence ne survienne, ou en essayant que, si la violence est déjà là, de ne pas faire escalader, en fait, la violence. Et donc, il y a aussi la prévention secondaire et la prévention tertiaire, où là, ça va plus être, par exemple, tout ce qui est le judiciaire, ou qu'est-ce qu'on fait quand on est victime de violence. Donc, nous, en fait, on promeut un travail qui se fait en amont. Et donc, pour ça, on transmet des stratégies, des outils aux personnes qui donc peuvent subir de la violence de par leur identité, et donc principalement les personnes LGBTQIA+, les femmes, les enfants, les filles aussi en particulier, les personnes en situation de handicap, les personnes racisées. Enfin voilà, on a plusieurs publics avec lesquels on travaille, et nos missions tournent vraiment autour de l'empowerment, comme on dit. Donc, c'est vraiment essayer de redonner confiance et de redonner de la force aux personnes pour que, quand elles sont dans des situations qui sont difficiles, elles puissent par elles-mêmes, en fait, puiser dans leurs ressources et mettre en place des stratégies pour essayer de se mettre en sécurité. Et donc, on fonctionne très fort autour de... Donc, on est en éducation permanente. Donc, en fait, on part aussi de ce que les personnes nous amènent. Et voilà. Et donc, ça, c'est un peu nos missions de base. À côté de ça, on a aussi tout un autre travail autour du plaidoyer politique, par exemple. Et on travaille aussi avec des professionnels. Voilà.
Et j'imagine que Garance a une histoire.
Oui. Alors, Garance, l'association, elle a donc 26 ans. Elle a commencé en 2000, donc c'est facile de calculer. Et elle a été donc créée par Irène Zeilinger et Anne Raymond, qui ont commencé à... bénévolement, hein, au début, à pratiquer de l'autodéfense féministe. Et petit à petit, en fait, l'association a pris de l'ampleur pour devenir donc ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, en fait, Irène avait déjà été formée à l'autodéfense féministe en Autriche. Et donc, en fait, elle est venue en Belgique et a continué le travail ici.
Alors, tu parles que l'émission première sont tournées autour des violences de genre. Mais c'est quoi les violences de genre plus précisément ?
Alors, donc, nous, on parle donc de toutes les violences, toutes les formes de violences qui ont lieu sur des personnes, en tout cas subies par des personnes, en fonction de leur genre, ou plutôt basées sur leur genre. Donc, c'est-à-dire que, pour donner un exemple concret, les féminicides, c'est une violence basée sur le genre. Donc, ce sont des femmes qui subissent des violences et parfois jusqu'à en mourir parce qu'elles sont femmes et parce qu'elles ont fait des choses que souvent leur compagnon, ex-compagnon, n'a pas supporté. Les personnes transgenres vivent aussi donc des violences basées sur leur genre. Et à côté de ça, il y a toute une autre série de violences qui peuvent aussi avoir lieu, parce que même si on travaille sur le genre, dans les différents publics que j'ai cités, il y a plein de personnes qui vivent des violences à la fois par rapport à leur genre, mais aussi par rapport à d'autres caractéristiques de leur identité. Et donc voilà, notre point central, c'est la question du genre, mais en fait, on ne peut pas juste travailler la question du genre. Elle est d'office couplée avec d'autres identités.
Donc tu parles d'intersectionnalité, c'est ça que tu veux parler indirectement ?
Oui, c'est ça. Donc on a par exemple tout un travail avec les personnes en situation de handicap. Donc les femmes qui ont un handicap vont vivre à la fois donc, des violences basées sur leur genre, mais aussi par rapport à leur handicap, donc du validisme. Et donc moi, dans le projet que j'ai donc, avec les personnes LGBTQIA+, c'est la même chose. Il y a des personnes qui vont subir à la fois des violences basées sur leur genre et à la fois par rapport à leur orientation sexuelle, mais ça peut être aussi lié à plein d'autres facteurs, la classe, la race, la situation de handicap, enfin voilà.
Donc finalement, c'est très très large en fait, c'est violence de genre.
Oui, c'est super large et c'est pour ça que donc au début, Garance a commencé à proposer des ateliers d'autodéfense féministe à des femmes et en ce compris les femmes bisexuelles, les femmes lesbiennes. Et petit à petit, en fait, ça s'est d'office élargi, parce que même si on prend que la catégorie femme, bah, y a une pluralité en fait de femmes. Et puis au-delà de ça, il y a aussi tout plein d'autres questions. C'est pour ça que on a aussi donc le projet dont moi je suis responsable, mais qu'on a aussi le projet par rapport à des femmes qui sont racisées ou en parcours migratoire. Enfin voilà, c'est vraiment c'est vraiment très large.
Est-ce qu'on se fera pas une petite pause musicale ?
Volontiers.
Alors, on vous propose d'écouter Nova Twins, Piranha.
Something in the water.
Nous sommes de retour dans l'émission Orcaz et ce soir, nous parlons des violences de genre. Alors, où se situent les violences de genre? Où les trouve-t-on?
Malheureusement, partout. C'est vraiment le principe des violences qu'on appelle systémiques, c'est qu'elles se retrouvent vraiment dans tous les domaines en fait, de la société. Et c'est pour ça aussi que parfois, nous, on fait des focus sur certains domaines en particulier. Donc, on avait par exemple tout un travail autour d'Internet, donc des cyber-violences. L'année passée, on avait aussi un atelier pour les personnes trans, non-binaires et intersexes, où il y avait aussi tout l'aspect des violences médicales. C'est vraiment très large. On a aussi une formation sur 3 jours qui s'appelle « Prévention des violences en milieu professionnel ». Donc là, c'est toutes les violences qui ont lieu dans le monde du travail, en ce compris les violences sexistes, les violences homophobes, transphobes. Et donc voilà. En fait, c'est très, très large. Elles sont vraiment partout.
Et qui est concerné par ces violences? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une intersectionnalité avec d'autres discriminations à certains moments?
Oui. Tout le temps, si on a une personne qui est donc à la croisée de plusieurs formes de discrimination, elle va donc vivre des violences qui vont lui être spécifiques. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé des ateliers ou des formations pour des publics très, très spécifiques. Par exemple, là, en juin, on va avoir 2 journées d'autodéfense pour les personnes LGBTQIA+ et racisées. Donc, c'est vraiment faire un focus sur quelles violences on subit en tant que personne LGBTQIA+ et en plus racisées, donc le croisement racisme, transphobie, homophobie, lesbophobie, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a des journées ou des week-ends vraiment spécifiques pour certains publics, parce que ces personnes ne vont pas rencontrer les mêmes violences et les mêmes discriminations que si on a un atelier pour des femmes cis et hétérosexuelles, par exemple.
Alors, si je comprends bien avec les informations que tu as déjà données, c'est qu'en fait, votre public cible, il est hyper large.
Oui.
Mais que malgré tout, vous travaillez avec des groupes, donc avec des je sais pas si on pourrait dire des spécificités demandées à ce moment-là au niveau de ces groupes. C'est bien ça, pour pouvoir travailler sur leurs problématiques et ce genre de choses.
Voilà, c'est ça. Donc, vraiment... à la base, on partait d'un public, femmes au sens très large, selon l'autodéfinition, peu importe l'orientation sexuelle, etc. Mais en fait, très vite, on se rend compte que, il y a une pluralité de femmes, que toutes les femmes ne vivent pas les mêmes choses, qu'une femme lesbienne ne va pas vivre les mêmes violences qu'une femme hétérosexuelle, etc. Donc, en fait, on essaye... de plus en plus de créer en fait des outils qui sont spécifiques pour essayer que toutes les personnes avec lesquelles on travaille puissent avoir les ressources et les stratégies nécessaires pour faire face à aux violences qu'elles vont subir. Et je rappelle que nous, on est vraiment dans de la prévention primaire. Donc, l'objectif, c'est vraiment que ces personnes puissent vivre en sécurité. Et donc, pour ça, c'est vraiment essayer de mettre en place des stratégies pour permettre que, si elles sont face, malheureusement, un jour à une quelconque forme de violence, avec l'autodéfense féministe, avec l'autodéfense queer et avec un entraînement aussi, elles puissent arriver à faire face et à limiter, voire à juste stopper la violence, en fait, quand elle a lieu.
Alors... justement, comment réagir face à cette violence? Donc, tu as déjà parlé de cours d'autodéfense, mais il y a d'autres choses?
Alors, nous, déjà dans l'autodéfense qu'on propose, donc comme j'ai dit, on a pour des publics très, très spécifiques, mais en fait, on propose de l'autodéfense physique et on propose ce qu'on appelle de la défense verbale. Alors, on a ce qu'on appelle des stages, c'est quand on fait des week-ends, des stages donc physiques et des stages pour la défense verbale, où il y a certains aspects parfois qui se recoupent, mais qui permettent en fait déjà de brasser un large panel des violences. Par la suite, on a aussi donc, enfin, comme je disais, tout ce qui est plus spécifique au travail, mais on a aussi toute une série de brochures et d'outils qui sont disponibles dans nos bureaux, où là, ça reprend une partie en fait, de ce qu'on propose lors des stages, ce qui permet soit aux personnes en fait, qui ont participé au stage de repartir avec des écrits et des choses voilà, qu'elles peuvent relire ou elles peuvent continuer à s'entraîner à la maison, par exemple. Ou alors, ça permet aussi aux personnes qui n'ont pas suivi de stage avec nous d'avoir un aperçu de ce qu'on propose et d'avoir aussi déjà certains outils en fait qui sont par écrit. Maintenant, on suggère quand même toujours que si les personnes ont la possibilité de venir à un stage, enfin c'est quand même l'idéal parce que juste l'écrit c'est pas suffisant. Cela étant, dans les brochures qu'on propose, il y a aussi toute une série de ressources et de listes d'associations, etc., qui peuvent être aussi des points de relais que les personnes peuvent contacter en cas de violence. Et sur notre site internet, on a aussi toute une série d'études et d'analyses qu'on a réalisées, qui sont toujours en lien donc, avec notre travail, avec l'autodéfense, avec la prévention primaire, mais où là, on va analyser ou réfléchir en tout cas à comment articuler par exemple la prévention primaire avec d'autres choses ou comment l'autodéfense féministe se développe ailleurs dans le monde. Et ça permet aussi d'avoir un aperçu un peu plus large que juste Bruxelles et la Wallonie, je vais dire. Et, enfin, voilà, c'est quand même toujours très intéressant de voir ce qui se fait ailleurs. Et à côté de ça, on participe aussi à tout ce qui est conférences, séminaires ou autres, pour continuer de promouvoir la prévention primaire, parce que voilà, donc c'est vraiment quelque chose en laquelle on croit, et expliquer notre travail.
Est-ce que vous faites aussi des animations, des choses comme ça dans les écoles, quand on vous demande ?
Alors, on a un projet spécifique qui s'appelle ECAP, pour enfants capables, et qui, donc pour l'instant, est spécifique pour les écoles, donc les écoles primaires. Et alors, c'est un projet qui permet, en fait, où on transmet du mieux qu'on peut, évidemment, aux enfants, des réflexes pour que les enfants puissent s'apercevoir quand ils sont dans des situations qui leur sont inconfortables ou qu'il s'agit vraiment de violences pour lesquelles ils peuvent être victimes, et aussi des stratégies pour arriver à se mettre en sécurité, à appeler à l'aide. On promeut aussi fort la solidarité, donc même entre les enfants, entre eux, et puis aussi pour les adultes. Et ce projet-là, donc c'est pas uniquement on va dans les classes, mais on travaille aussi avec le personnel de l'école et avec les parents. Donc, si on intervient dans une classe, on a aussi en amont rencontré les parents et les instits, les éducs, toutes les personnes qui peuvent graviter au sein d'une école. Parce que l'objectif, c'est vraiment d'avoir un socle commun contre les violences qui sont faites aux enfants. Et donc voilà, et souvent les enfants donc sont vus plusieurs fois durant leur parcours scolaire, enfin en primaire en tout cas.
Et alors, j'ai cru entendre que vous aviez aussi des animations qui étaient faites par des pères, donc des personnes qui deviennent expertes de leur vécu.
Oui, tout à fait. Ça, donc, on a deux projets comme ça. Le premier, donc, c'est par rapport aux femmes migrantes en parcours migratoire et aux femmes racisées, où là, en fait, elles participent à plusieurs journées où on va les former à l'animation d'ateliers pour un public qui leur ressemble, en fait. Et donc, nous, notre objectif, c'est que après, les personnes puissent se saisir elles-mêmes, en fait, des outils qu'on a mis en place. Et on a la même chose pour les personnes en situation de handicap, principalement avec un handicap mental, intellectuel, où là, c'est la même chose. On forme les personnes pour qu'elles puissent, par la suite, par exemple, des personnes qui sont dans des centres de jour, enfin peu importe, et qu'elles puissent par elles-mêmes mettre en place des activités d'autodéfense.
Est-ce qu'on ferait pas de vous une petite pause musicale ?
Bonne idée.
Alors, je vous propose d'écouter Grrr, Like de Top St. Jude.
I'm like my mama. Sometimes it's drama, forget the karma, might hear me holler, reverse Madonna,
that's me,
my bike's a Honda,
that me,
Michelle Obama,
that me,
you feel me holler,
Sisio.
I'ma go just like, I'ma go just like, I'ma go just
Yay. Skip train, don't gotta ride. All I got is my heart and my pride. Cash money for the game on the streets. The only way to hustle is to spit it on the beats. Don't fuck around. When I come through with the verse and the sound and the hacks and the biz, wanna box on my flow, but I don't give a fuck. I'm the shit and I know.
Mama, drama, karma, might hear me holler. I'ma go just like.
Like what?
I'ma go just like.
I don't give up.
I'ma go just like.
What?
I'ma go just like. I don't give a fuck.
Skip train, girl by my side.
No.
Red lights flash and we run and we hide. Home goal, got a head in the books. And I translate words with my bars and my hooks.
Kick down, hey.
Don't fuck around. When I come through with the verse and the sound and the hacks and the biz, when I box on my flow, but I don't give a fuck. I'm the shit and I know. Don't give a fuck. 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 I'm the shit.
I'm like my mama.
That's me.
Sometimes it's drama.
That me.
Forget the karma.
That me.
Might hear me holler. Reverse Madonna.
That's me.
My bike's a Honda.
That me.
Michelle Obama.
That me.
You feel me holla.
I'ma go just like.
I'ma go just like.
I don't give up.
I'ma go just like.
What?
I'ma go just
like.
I don't give a fuck.
Bra, bra.
I don't give a fuck.
Toujours sur le thème des violences de genre, avec notre invitée, Bethel Mabi, de l'association Garance. Est-ce qu'il existe des violences de genre qui sont plus invisibles que d'autres, comme par exemple le travail du sexe ? Et je sais que vous travaillez également sur ces thématiques, notamment au niveau international. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler ?
Oui, donc on a tout un projet international par rapport à Garance qui en fait nous permet déjà d'être en contact avec d'autres associations qui font de l'autodéfense féministe pour pouvoir voilà, échanger. Et puis il y a aussi dans le monde des associations qui ont encore plus de difficultés voilà, à promouvoir l'autodéfense féministe. Donc, on essaye aussi d'être un soutien, mais aussi parce qu'il y a des thématiques comme le travail du sexe qui sont plus invisibilisées à l'international, mais aussi enfin, voilà, en Belgique. Et donc, là, on est vraiment sur le travail du sexe, donc sur un public spécifique qui croise à la fois donc, les violences basées sur le genre, d'autres séries de violences, et puis on est aussi dans tout ce qui touche au au travail, en fait. Et voilà, ça crée vraiment des violences qui sont très, très spécifiques. Et donc, ça nous arrive donc de créer de mettre en place des ateliers. On a déjà fait ça, notamment avec l'association Alias, pour un public spécifique de travailleuses du sexe. Et en fait, c'est toujours la même chose. On adapte, en fait, nos outils aux réalités des personnes qu'on rencontre. Et à côté de ça, on part aussi de ce que les personnes nous amènent pour essayer de leur proposer ou en tout cas de faire ressortir des ressources souvent que les personnes ont déjà un peu en elles pour qu'elles puissent travailler en fait en sécurité. Mais le fait que ça se fasse aussi de manière internationale, c'est important voilà d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Mais c'est aussi il y a un levier politique en fait qui est là, parce que quand on se regroupe plusieurs associations à un niveau international autour de certaines thématiques, que ce soit l'autodéfense féministe, la prévention primaire ou autre, on peut avoir plus de poids, par exemple à un niveau aussi européen, et ça peut se répercoler sur comment se passe l'autodéfense féministe en Belgique, les moyens qui y sont alloués et ce genre de choses.
Alors, il y a quelque chose auquel je me suis dit, on n'a pas défini ce que c'était l'autodéfense féministe. Est-ce qu'on pourrait le dire, peut-être?
Oui, c'est vrai. Alors, en fait, l'autodéfense féministe, elle a de particulier par rapport à, je veux dire, l'autodéfense plus mainstream, qu'on n'est pas dans un cours de sport. Donc, j'ai parlé d'autodéfense physique. On ne va pas faire du sport. Il ne faut pas une condition physique particulière. L'objectif, c'est justement plutôt de se mettre dans des situations de la vie quotidienne où il peut donc y avoir de la violence, et avec qui on est, avec l'endroit dans lequel on se trouve, avec les personnes qui peuvent se trouver aussi dans cet environnement-là, essayer de mettre en place des stratégies pour arriver à se mettre en sécurité. Et dans l'autodéfense féministe, c'est pour ça qu'on a plusieurs publics spécifiques. En fait, c'est une forme d'autodéfense qui se base vraiment sur la réalité vécue par les personnes qui participent à un stage ou un atelier. À côté de ça, l'autodéfense mainstream, c'est plus des stratégies générales. Donc, ils ne vont pas spécialement faire un focus sur les liens entre homophobie et racisme, par exemple. Ce que nous, on va faire. Et on n'est pas dans un sport de combat. Donc, ça veut dire que... En atelier, moi, je me donne toujours un exemple. Je ne suis pas du tout fan de sport. Je ne fais pas de sport. Et pourtant, je fais quand même de l'autodéfense féministe. Parce que c'est vraiment arriver à prendre conscience que, en tout cas pour le physique, qu'avec notre corps, peu importe le corps qu'on a, on peut arriver à se défendre et à se mettre en sécurité. C'est aussi pour ça qu'on a tout un projet avec les personnes en situation de handicap, par exemple. Ce qu'on ne retrouve pas forcément dans l'autodéfense plus mainstream. Voilà. Et donc, on a des personnes parfois qui nous demandent « Oui, est-ce que c'est en lien avec... le Krav Maga ou les arts martiaux, ou etc. » Alors, bien sûr, il y a des techniques qui sont inspirées, mais elles sont adaptées pour qu'en fait, toute personne puisse s'en emparer. Donc voilà, il ne faut pas avoir une ceinture noire en karaté ou je ne sais pas quoi d'autre pour venir à nos ateliers. Il ne faut pas avoir de conditions physiques particulières. Et en plus de ça, on dit aussi aux personnes de venir habiller comme elles s'habillent dans la vie de tous les jours. Pas avec des vêtements de sport ou autre. On dit au contraire, venez comme vous êtes, parce que la violence, elle ne survient pas spécifiquement quand on va être en tenue de sport et qu'on va être préparé ou ce genre de choses. Et donc voilà. Et donc par exemple, avec le projet LGBTQIA+, on va avoir des stratégies qui vont être spécifiques, par exemple pour les femmes trans dans l'espace public, et voilà ce genre de situation spécifique où les violences sont pas les mêmes, et où donc voilà on s'adapte, ce qu'on retrouve pas dans l'autodéfense mainstream.
Alors, si je comprends bien, donc vous avez les ateliers que vous proposez, vous avez également des outils, donc des brochures, des études au niveau national mais international surtout, Vous proposez aussi des brochures, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses en plus que j'aurais oublié?
Y a un projet auquel j'ai pas parlé, notamment parce qu'il est un peu en pause, mais c'est pas parce qu'il est en pause que ça veut dire qu'on ne fait plus rien. Mais on a aussi tout un projet pour les femmes et minorités de genre de plus de 55 ans, où là aussi c'est la même chose, c'est réfléchir à comment les personnes qui sont un peu plus âgés, voilà, occupent l'espace public, ou en tout cas, comment les violences peuvent survenir aussi dans l'espace privé. Donc ça, j'en ai un peu moins parlé. Qu'est-ce que j'aurais oublié ? Enfin, en fait, vraiment sur notre site internet et sur notre newsletter, entre autres, tous les mois, on va remettre en avant toutes les activités qu'on fait, que ce soit des stages ou des interventions un peu partout. Et voilà, c'est vrai que ça peut paraître un peu... on fait beaucoup de choses, mais l'idée, c'est vraiment de proposer aussi plusieurs formes de support pour que toute personne puisse un peu s'y retrouver.
Et alors, si quelqu'un est victime, vous accompagnez également donc, pour vous renvoyer ailleurs ?
Oui. Donc, si une personne est victime de violence et souhaite aller plus loin, en tout cas, que ce que nous, on propose, nous, on va réorienter vers d'autres associations. On n'accompagne pas les personnes, mais on ne fait pas non plus durant nos stages et ateliers, on précise bien que ce n'est pas un groupe de parole. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas témoigner ou quoi que ce soit.
Ça n'a pas une visée thérapeutique en tant que telle,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Ça n'a pas une visée thérapeutique. C'est, si les personnes souhaitent, elles peuvent coupler ça, évidemment, avec de la thérapie ou un soutien par d'autres associations ou collectifs. Mais là, nous, on est ici vraiment plus dans un espace de transmission, d'échange et de réflexion. Donc voilà, surtout qu'on a des groupes où, dans la très grande majorité des cas, les personnes ne se connaissent pas. Et nous, on n'est pas non plus formés en soutien par rapport au trauma ou voilà, ce genre de choses. On sait bien qu'on a des exercices qui peuvent remuer très fort les participants et les participantes. Et dans ce cas-là, voilà, on a des choses qui sont mises en place, mais ce n'est pas du tout une consultation psychologique ou quoi que ce soit.
Mais par rapport à ça, je voulais juste rappeler que tel quel a un service social, donc il peut proposer ce type d'accompagnement psychosocial. Voilà, donc il ne faut pas hésiter, quoi. Et quels sont les sujets que vous voudriez porter sur le devant de la scène politique et aussi, j'imagine, vous avez des projets pour l'avenir ?
Oui, je pense que un gros sujet, c'est vraiment la mise en avant de la prévention primaire, parce que les moyens qui sont alloués pour faire notre travail sont quand même très restreints. Il y a beaucoup plus de moyens qui sont alloués, par exemple, pour ce qu'on appelle la prévention tertiaire. Donc là, en fait, c'est quand la violence, elle a déjà eu lieu, donc ce qui va être plutôt police-justice, on va dire, mais beaucoup moins dans la prévention. Alors que, ça, c'est des choses que vous pourrez voir sur notre site, mais voilà, on sait que la prévention primaire porte ses fruits et qui a des résultats et qui permet de faire baisser les violences. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est vraiment important. Et les financements qu'on a, malheureusement, ne suivent pas, en fait, ce qu'on essaye de faire. À côté de ça, pour le projet LGBTQIA+, en tout cas dont moi je suis responsable. On a parlé, j'ai un peu parlé notamment de tout ce qui est procédure médicale et sociale pour les personnes trans. Mais que ce soit pour les personnes trans ou les personnes intersexes, on sait que voilà, ce sont des endroits où il y a beaucoup de violence. Et nous, on essaye aussi de mettre en avant qu'une facilité d'accès et un remboursement, en fait, des soins pour les personnes trans et intersexes, on sait que déjà ça pourrait aider à faire baisser la violence. Et c'est pas juste violence médicale, il y a tout l'aspect aussi administratif, etc., qui peuvent être un frein pour que les personnes puissent s'épanouir. Et par rapport aussi à... Donc, on a un projet autour des femmes migrantes, mais moi aussi, je travaille avec donc, des personnes LGBTQIA+, qui sont migrantes ou sans papier européen. Et en fait, les choses sont toujours liées. Donc, avec une régularisation en fait, des personnes qui sont sans papier, on sait aussi qu'il y a plus de droits et donc plus de moyens de faire des leviers face à, enfin, d'avoir des leviers face à la violence que les personnes subissent. Donc, quand moi, je travaille avec des personnes LGBTQIA+, sans papier, en tout cas européens, on sait que voilà, ce sont des personnes qui ont accès à très peu de droits et donc en termes d'autodéfense, c'est vraiment pas, et c'est pas évident en fait. Et donc voilà, tout est toujours lié. Et sinon, dans les projets futurs, donc là en juin, donc pour le Pride Month, on va avoir tous les week-ends de juin, si je ne m'abuse, il va y avoir donc des stages spécifiques pour personnes LGBTQIA+, qui sont donc d'autodéfense, qui sont à prix libre. Et les stages sont, il y en a un pour personnes LGBTQIA+ racisées, un pour personnes trans, non-binaires et intersexes. Donc voilà, il y a des publics spécifiques. Mais ça, ce sera durant tout le mois de juin. Et il y en a un aussi, il y en a un aussi en mai. Voilà, et sinon, on a aussi toujours on a la brochure qui s'appelle Libre à tous les coups, qui est un guide d'autodéfense pour les personnes LGBTQIA+, qui a été réédité et qui vient là juste de sortir, qui est disponible dans nos bureaux et qui reprend plein de techniques d'autodéfense, mais aussi de rappels de la loi ou de rappel de ce que les personnes peuvent faire et qui est tout à fait légal pour se défendre face aux violences qu'elles subissent. Et donc voilà, là ça vient d'être réédité et c'est toujours disponible.
Alors pour vous joindre, on a parlé du site, donc il faut quand même le préciser, c'est www.garance.be. Est-ce que vous êtes également sur les réseaux ?
Oui, on est sur Instagram, Garance ASBL, si je ne m'abuse, aussi sur Facebook. On a une newsletter, mais ça, pareil, sur le site internet, on peut trouver les moyens pour s'inscrire. Et on a une adresse mail qui c'est info@garance.be. Donc, il y a une adresse mail générale. Et si les personnes contactent, voilà, nous, on va aussi réorienter vers des personnes spécifiques comme moi, si par exemple, ça touche à des questions d'homophobie, transphobie, etc.
Voilà, mais je pense que, à part s'il y a d'autres sujets que nous n'aurions pas abordés.
Ici, non, pas vraiment. En tout cas, juste par rapport au projet LGBTQIA+, voilà, c'est un projet où qui fonctionne en fait d'année en année. Donc, à chaque fois, on doit refaire une demande de subside. Et donc là, cette année, on va principalement travailler au tout début d'un documentaire audio qui lie l'autodéfense queer et féministe et les violences LGBTQIA+. Mais voilà, ça c'est le projet pour 2026 et en espérant qu'on puisse continuer en 2027.
Ok, mais merci beaucoup.
Et merci en effet. Une très bonne soirée à nos auditrices et puis à la prochaine.
Au revoir. Merci.
Orcase, une émission LGBT de l'association Telle Quelle en collaboration avec Radio Campus.